Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'une discussion d'un avenir, avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 13 mars 2025. Publication de l'avis du Haut Conseil pour le Climat concernant le nouveau plan d'adaptation au changement climatique, PNACC3. Est-il possible de redéfinir rapidement ce qu'est le Haut Conseil pour le Climat, HCC ? De même, qu'est-ce que cette troisième version plan d'adaptation au changement climatique ? Qu'est-ce que cet avis souhaite influencer afin que ce PNACC3 gagne en cohérence ?
Je n'ai Thomas. Pero me voy a tomar un traguito ahora.
Pour permettre à cet épisode de respirer un peu, j'ai choisi de donner le minimum d'informations sur le Haut Conseil pour le Climat. Mais vous pouvez en savoir plus avec l'épisode 27 Feuilles de chou, en podcast sur le site de notre radio PFM 99.9. Le Haut Conseil pour le Climat, HCC, est un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique en matière de climat et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France, en particulier l'accord de Paris, l'atteinte de la neutralité carbone en 2050 et le respect des budgets carbone de la France. Tous les 5 ans, ce Haut Conseil rend également un avis sur la stratégie bas carbone du pays pour respecter l'accord de Paris. Tous les avis et rapports du Haut Conseil pour le Climat sont rendus publics. Et ce PNACC3 alors, c'est quoi ce plan ? Troisième version en titre, ce plan national fixe des directives pour permettre, je cite, « au territoire français de s'adapter au changement climatique ». Qui dit troisième version, dit révision des deux précédentes. Et pour cause, les prédictions climatiques évoluent dans le rouge d'année en année, poussant à repenser ce qui avait été planifié comme niveau d'adaptation. On reviendra sur ce terme plus tard. En effet, du réchauffement à max 2 degrés en 2100, on est maintenant sur un plan à plus 4 degrés. En bref, ce rapport liste 50 mesures et admet un budget total de 600 millions d'euros pour que les collectivités s'adaptent en mettant en œuvre ces dites mesures. Tous les secteurs sont étudiés de près ou de loin. Prenons pour exemple le domaine agricole. Il est annoncé que dès 2026, chaque exploitant pourra bénéficier d'un diagnostic de résilience de leur activité dans un climat futur de ce scénario à plus 4 degrés. Parmi les autres options proposées, on a dans le domaine du patrimoine des actions d'adaptation des sites classés les plus vulnérables. Dans le domaine du travail, est annoncée une amélioration des normes de conditions de travail afin de garantir des conditions viables malgré des épisodes de forte chaleur. À la publication de ce plan national a également été joint l'outil Climadia Commune proposé par Météo France et qui permet de lister les différents paramètres climatiques d'une commune dans les différents scénarios à l'horizon 2050 et 2100. Maintenant que vous avez toutes les données nécessaires, passons à ce fameux avis du Haut Conseil pour le Climat, intitulé « Avis sur le plan national d'adaptation au changement climatique, une première étape pour garantir la résilience et la protection des populations ». Cet avis définit 5 conditions de réussite de ce plan et formule 24 recommandations pour réduire les vulnérabilités de ce plan. En d'autres termes, c'est bien que ce plan existe, mais on doit mieux faire pour que ce soit viable face à l'ampleur des événements actuels et à venir. La première condition est bien entendu d'améliorer la gouvernance de l'adaptation et de mettre les moyens nécessaires, notamment financiers, pour y parvenir, ce qui à l'heure actuelle semble faire défaut. En effet, une grande partie des financements reste à définir et les financements connus à ce stade sont insuffisants. Les actions du PNACC3, qui nécessitent des investissements immédiats, doivent pouvoir être identifiés le plus rapidement possible d'après le Haut Conseil pour le Climat. En effet, l'aggravation des impacts du changement climatique nécessitera d'augmenter le financement de l'adaptation. Les impacts du changement climatique ont des coûts annuels récurrents élevés, par exemple 10 milliards d'euros en 2022 en France pour les seuls biens assurés, et ces coûts vont augmenter à l'avenir. Différer l'engagement de ces mesures conduirait à une réduction des options d'adaptation possibles et entraînerait une augmentation des coûts à long terme de l'adaptation. Le gros plus prôné par le plan national étant la couverture des assurances pour les sinistres climatiques, le Haut Conseil pour le climat précise que le rôle couplé de la prévention et de l'assurance en faveur de la résilience et de l'adaptation mis en avant par ce plan ne pourra produire les effets attendus à grande échelle que si l'équilibre entre les acteurs du secteur de l'assurance est repensé pour faire face à des situations qui dépassent d'ores et déjà les mécanismes de couverture actuels. Quand on parle de gouvernance, le Haut Conseil pour le climat propose plusieurs éléments de réponse, tels que la création de COP, vous savez, ces grosses réunions qu'on avait à l'échelle mondiale, mais cette fois-ci régionale, d'adaptation au changement climatique, avec un maximum d'acteurs du territoire, qui, pour le coup, seraient bien adaptés au contexte climatique local, à toutes les contraintes de la région en question. Ou bien encore, l'inscription dans le droit des diverses directives dont le plan fait l'ébauche, histoire de rendre la chose moins faible juridiquement. Et bien entendu, la formation de tous les acteurs opérationnels de l'État et des collectivités aux questions d'adaptation au changement climatique, ainsi que l'utilisation d'un référentiel afin de savoir si le plan en question est respecté ou non. À noter que ce référentiel d'indicateurs existe depuis 2022 et inclut un grand nombre d'études scientifiques. Encore de nombreuses conditions restent à découvrir et ne seront pas développées dans cet épisode, mais éclaire vivement sur les progrès encore à réaliser pour que ce plan national soit plus qu'un nouveau document s'additionnant au précédent. On retiendra cependant cette énième solution pour que la viabilité de ce plan renforce une cohérence globale, à savoir renforcer l'ambition d'adaptation pour la biodiversité, les écosystèmes et les ressources naturelles, et veiller à réduire les effets antagonistes pour la biodiversité. Fichtre, avec toutes ces conditions, j'allais presque oublier de vous parler de ce fameux terme « adaptation ». En écologie scientifique, cela signifie que de génération en génération, de nouvelles caractéristiques physiques apparaissent pour que les descendants soient plus aptes à survivre et à se développer dans leur environnement. Outre la petite blague de l'évolution derrière ce terme, car non, nous, humains, n'avons pas le temps d'avoir des palmes qui nous apparaissent à la place des pieds, ou bien encore une peau de reptile pour pallier aux sécheresses, il advient évident que notre système actuel doit intégrer les erreurs du passé pour transmettre aux générations à venir quelque chose qui tient debout. Car la sélection naturelle demeure, et lorsque l'espèce ne s'adapte pas, la branche de cette évolution disparaît au profit d'autres espèces plus robustes. N'est-ce pas, cher courlis à bec grêle ? Le courlis, c'est la première espèce d'oiseau continental à s'éteindre en Europe. C'est tout frais, de l'année dernière, en 2024. Aïe, aïe, aïe. Rien que dans notre coin arrageois, on peut avoir un aperçu du climat potentiel sur l'outil climadiaque commune. Plus de pluie et plus de sol sec, bizarrement. Pas tant que ça, en effet. Moins de gel et plus de journées de canicule, des maximums de température qui augmentent, entraînant une drastique augmentation des nuits caniculaires, ne descendant pas en dessous de 20 degrés. Comme dirait l'autre, ça sent pas bon. Trêve de bavardage, bifurquons sur un sentier où ses pensées ont été explorées un peu plus loin sur les ondes, tendant un instant la feuille à une discussion entre humains dégourdis. L'effondrement, et après ? Expliquer à nos enfants et à nos parents. Papa, c'est quoi cette histoire d'effondrement ? Tout le monde en parle, ça devient flippant. C'est vraiment la fin du monde ?
Oui et non.
Comment ça, oui et non ? C'est oui ou c'est non ? Si c'est oui, c'est grave.
Ça dépend.
Mais toi, t'y crois vraiment ? T'es sérieux ? Pourquoi tu m'as rien dit avant ?
Mais je n'arrête pas d'en parler.
Peut-être avec maman, avec Camille ou avec tes amis, mais jamais avec moi.
Ok, ok. Asseyons-nous. Je suis sûr que sur le fond, avec tes intuitions, tu en sais déjà beaucoup. Mais je peux t'expliquer ce que je sais. Tu veux savoir quoi exactement ? Qu'est-ce qui te tracasse ?
Tout ! Par exemple, si c'est la fin du monde, pourquoi ? Comment ? Est-ce qu'on va tous mourir ? Et quand ? Pourquoi personne n'en parle aux infos ? Et les politiciens, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi personne ne fait rien ?
D'accord. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, tu parles de la fin du monde. Je pense que ce n'est pas une bonne entrée en la matière.
Pourquoi ? C'est quand même ça le plus important, non ?
Oui, mais c'est comme si tu voulais déglinguer le monstre de fin du jeu alors que t'as à peine commencé à découvrir les manettes. Il faut passer par tous les niveaux progressivement. Ça veut dire quoi pour toi, la fin du monde ?
C'est à toi de me le dire !
Comment tu te l'imagines ?
C'est facile. The Walking Dead, la route, la série L'Effondrement sur Canal, les gens vont avoir faim et s'entretuer, il n'y en aura pas pour tout le monde, sans les services publics, sans police, sans téléphone, avec plus rien dans les magasins. On n'est pas du tout préparé. Ça va être un carnage !
Tu vois, l'idée de la fin du monde est tellement flippante qu'elle t'accapare tout le cerveau et se met à débloquer. Je pense qu'il faut commencer point par point. Et puis assembler les pièces du puzzle. C'est toi qui déduiras si fin du monde il y a ou pas. Et surtout, ce que tu entends par fin et ce que tu entends par monde. Et enfin, comment tu te l'imagines ? Le plus important dans l'histoire, c'est vraiment ça. Comment tu t'imagines la suite ? Parce que là, j'ai l'impression que tu te laisses imaginer ton monde, si je puis dire, par des auteurs de post-apo. Mais en vrai, c'est à toi de le faire.
Tu m'embrouilles là, c'est ça ?
Non, pas du tout. Avant d'entrer dans le dur du sujet, j'aimerais juste qu'on se pose un peu. Tu vas comprendre pourquoi. T'as le temps ?
Oui, de toute façon, je suis naze et j'ai plus envie de rien.
La première chose, quand on discute sérieusement, c'est de pouvoir situer d'où on parle. Quelle est notre posture, notre intention, notre état émotionnel ? Commencer directement par les chiffres alors qu'on est traversé par des grosses émotions, c'est une très mauvaise base de discussion. On risque de mouliner pendant des heures et d'être frustré de ne pas avoir renforcé notre lien ou pire, de se disputer. Quand tu vas bricoler ou faire du sport, tu mets les bons habits, tu te prépares avant. Et si l'épreuve est difficile, tu t'échauffes, non ? Là, c'est pareil. Le sujet est sérieux et même un peu dangereux, l'effondrement. C'est comme un marathon avec des obstacles énormes. Ce n'est pas à prendre à la légère.
Vas-y, commence-toi.
Ok. Moi, à cet instant, j'ai un peu peur de notre discussion, je te l'avoue. Peur de tes réactions et peur de ne pas avoir le courage de te dire ce que je pense. Parce que je voudrais trop te protéger. Par rapport au sujet, je ressens un peu de lassitude, de la tristesse et depuis hier, de la colère. À cause d'un nouveau livre que je viens de lire sur le climat. Ma posture, c'est que je te parle en tant que papa et un peu en tant que scientifique qui a beaucoup lu et réfléchi aux catastrophes depuis des années et échangé avec plein de gens. Ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai appris à déchiffrer ce que disent les scientifiques là-dessus. Ça veut dire que je sais des choses, mais aussi que je peux me tromper. Ça veut aussi dire que je crois à certaines choses et que j'en imagine d'autres. Surtout, mon intention avec toi, c'est que j'aimerais répondre à tes questions du mieux que je peux et le plus honnêtement possible, et qu'on arrive à garder un lien de confiance.
Oui, moi aussi, et j'ai surtout peur.
L'autre chose que tu dois savoir, c'est que c'est normal d'avoir peur, d'être triste, désespéré, dégoûté ou en colère. Si la Terre est malade et si la société se détraque, c'est normal de se sentir mal. Tout le monde se sent mal, sauf le psychopathe. C'est désagréable, oui, mais c'est sain. Ce qui ne l'est pas, c'est de rien ressentir ou de trouver ça cool.
Ah merci, ça m'énerve trop les abrutis à l'école qui font semblant de s'en foutre ou qui sont pressés de jouer au film de zombies juste parce qu'ils s'ennuient dans leur vie. Ils se rendent pas compte ou quoi ?
Tout le monde a peur, mais l'exprime différemment. C'est pour ça qu'il y a tant de réactions étranges quand on parle de catastrophe. Certains en rigolent, d'autres fuient, d'autres se passionnent et veulent tout savoir. Pourtant, je ne pense pas qu'il faille mettre ces problèmes sous le tapis, sous prétexte qu'ils sont trop effrayants. On doit en parler. Si tout à coup il y a un incendie chez nous, ou si un tigre apparaît dans la pièce, plutôt que de faire semblant que ça n'existe pas sous prétexte que ça fait trop peur, ce serait plus logique de communiquer et d'agir, non ?
Carrément, mais attends, si le tigre, c'est l'effondrement, il existe ou pas ?
Oui, les effondrements au pluriel existent déjà. Les catastrophes brutales et imprévisibles sont présentes un peu partout sur Terre et font des ravages. Les méga-feux, les pollutions massives, la destruction des forêts, les ouragans, les guerres, etc. Cependant, si on parle de l'effondrement singulier, du Big One, comme le grand tremblement de terre qui menace la Californie, c'est-à-dire d'un effondrement gigantesque de la vie sur Terre, alors on pourrait dire qu'il a commencé et qu'il n'est pas achevé.
Et l'effondrement de notre société ?
Là, c'est plus compliqué. Car c'est arrivé à d'autres sociétés sur Terre, mais pas à notre société occidentale industrielle. Cela reste une possibilité, un risque. Ce serait comme un grand tigre imaginé par nos esprits. Si on continue avec le tigre, cela veut dire qu'on voit son ombre derrière le buisson. Beaucoup de signes montrent qu'il est possible que tout se dégrade très vite. Les indices de la finance, les fragilités de la société qu'on a vues pendant la pandémie, les forêts, les animaux qui meurent, la fonte des glaces, le manque d'eau, les inondations hors normes, par exemple la tempête Alex dans la vallée de la Roya. Je ne sais pas si tu te souviens. Bref, tout ça peut dessiner les contours d'un tigre géant. Soit on se dit « ce n'est pas un tigre » et on passe à autre chose, soit on fait comme si c'en était un et alors on doit agir en conséquence. De toute façon, un petit tigre bien réel ou la possibilité d'un grand tigre à venir, les deux font peur. Et c'est ce qui fait bouger. La peur, ça sert à fuir, à passer à l'action ou à combattre, ça sauve la vie. Tu n'irais pas dire aux pompiers qui arrivent chez toi pour te sauver d'un incendie « Messieurs, arrêtez avec vos sirènes, vos gestes brusques et vous me faites peur !»
Non, mais il y a quand même des peurs qui nous bloquent.
C'est vrai. Lorsque le danger est trop grand, impossible à gérer, qu'on peut ni fuir ni combattre, alors c'est un réflexe de survie, de faire le mort, de se dissocier. Beaucoup d'animaux font cela. La clé pour sortir de cette situation, c'est-à-dire pour revenir vers le chemin de l'action, c'est de trouver des ressources, de trouver de l'aide, de recréer des liens avec ton entourage. Si toute seule tu ne peux pas agir, alors tu dois t'associer. C'est un grand mensonge de notre société de nous faire croire que l'on peut s'en sortir tout seul. C'est d'une profonde stupidité. Tout seul, on n'est rien, on ne fait pas grand-chose. Ce qui compte dans la vie, ce sont les liens que tu entretiens avec les autres, tous les autres, même les non-humains.
On ne peut pas avoir peur tout le temps.
Exact. La peur, ça sauve. Mais pendant un court moment, la complication avec le climat, les pollutions et l'effondrement de la vie, c'est qu'on va scoltiner les mauvaises nouvelles pendant des siècles. On est face à un incendie infini ou un tigre immortel. Et ce n'est pas du tout normal. Nous, les humains, on n'est pas fait pour ça.
On est coincé alors ? Comment on va faire ?
Je ne sais pas, il va falloir s'adapter, s'habituer, vivre avec, mais c'est sûr que ça va nous user de l'intérieur. Il y a de quoi devenir fou. Il va falloir transformer tout cela en un grand récit qui ne fasse pas peur et qui redonne de l'espérance et de la joie. C'est un sacré défi. Il y a donc un boulot d'organisation pour défendre la vie et pour inventer de nouvelles manières de vivre, mais il y a aussi du boulot pour imaginer une autre histoire, d'autres sens à notre vie. Et enfin, comprendre ce qui se passe. Moi, c'est ça qui me passionne. Imaginer et comprendre, et toi, tu trouveras ta voie.
Quand on cherche des solutions en nous, petits humains, c'est parfois le grand vide. Peut-être qu'en se rappelant que nous ne sommes pas seuls dans cette galère, il nous parviendra plus facile de voir un futur viable, voire enviable. Dans la série des espèces qui ne font pas de bruit mais reviennent sur le territoire français, laissez-moi vous introduire Sir Castor. Le bièvre, Castor Fiber, fait en effet son grand retour dans les canaux et rivières du nord de la France après 300 ans d'absence. Espèce ingénieure des cours d'eau de retour sur notre territoire, elle est d'autant plus à considérer étant donné le contexte actuel d'augmentation de l'artificialisation des sols, d'inondations répétées et d'effondrement de la biodiversité. À l'occasion du Printemps des Castors, événement européen, sur une année, plusieurs événements prennent place sur notre territoire. Ce mercredi 2 avril à 18h se tiendra à l'amphithéâtre du lycée biotech de Oignon-Villadoué une conférence animée par le président de Haut Vivant Nord de France, Samuel Duby. Vous pouvez piocher le lien d'inscription sur le podcast de cet épisode, Feuille de Chou, sur le site de notre radio PFM 99.9. Et pour celles et ceux qui écoutent cet épisode en fin de semaine, pas de panique, rendez-vous le samedi 5 avril à 13h30 au 25 chemin du Marais à Paluel pour une conférence tout aussi attrayante autour de notre sœur Castor.
Que sont devenus les diplodocus? Peut-on avoir un dragon chez soi? Quand reviendra gracieuse la mouette? Le loup et Malaguette.
Tu as pêché où? Baobab, Acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous recevons sur les ondes un passionné du vivant, cuisiné aux petits oignons.
Pain des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.